Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à toutes et à tous, il est 15h sur Radio Kapi. Bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 5 décembre 2025. À la une aujourd'hui, RDC et Rwanda renforcent leur engagement pour la paix à Washington. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, salue cette avancée et appelle à la patience pour une mise en œuvre harmonieuse. Maniema, l'hôpital général des Samba, en détresse face à un manque criant d'infrastructures. Le docteur Cédric Mbayous, médecin directeur, alerte sur l'absence d'unités vitales et appelle à une intervention urgente pour sauver la capacité de soins. ENA, un recrutement pour rajeunir la fonction publique. Plus de 11 000 candidats, dont 2 715 femmes, ont passé l'épreuve écrite pour intégrer la 10e promotion. Le directeur général Tombola Mouké explique les objectifs et remercie les acteurs impliqués. Il est l'invité du journal. Gisèle Kaja, la présentation. Nous ouvrons cette édition avec une information majeure en provenance de Washington. La signature hier de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a déclaré être pleinement consciente des attentes des Congolais qui espèrent une mise en œuvre rapide de cet accord entériné par les deux présidents sous médiation américaine. Elle s'est exprimée jeudi lors d'un point de presse à Washington, aux côtés des ministres de l'économie, de la communication et des médias, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, présent en qualité d'expert pour le gouvernement congolais. La ministre a rappelé que la paix est un processus qui s'est construit et requiert du temps. Écoutons Thérèse Kayikwamba Wagner au micro d'Alain Erong, envoyé spécial de Radio Kapi à Washington.
Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs, et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres, pas seulement parce que nous le connaissons, nous le savons de notre propre région, mais nous l'avons aussi appris dans d'autres régions. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur.
Pendant ces temps, sur le terrain, la tension armée reste palpable. Au Nord Kivu, les armes se sont provisoirement tues ce vendredi sur la plupart des lignes des fronts. Cette accalmie survient au lendemain de la validation à Washington d'une série d'accords entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ces engagements négociés depuis plusieurs mois avec l'appui des États-Unis et d'autres médiateurs suscitent autant d'espoir que d'interrogations dans une région meurtrie par 4 années de conflit. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
Dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, ainsi qu'une partie de Walikale et Lubero, les acteurs locaux espèrent que ces engagements se traduiront rapidement par un cessez-le-feu effectif. Mais certains restent sceptiques. Selon eux, la présence renforcée des troupes sur les lignes de front et la méfiance persistante entre les belligérants laissent planer des incertitudes sur la mise en œuvre des accords. Tant que les troupes ne respectent pas réellement le cessez-le-feu, ces engagements resteront hypothétiques, confient certaines de ces sources locales. Elles déplorent en plus une crise humanitaire toujours alarmante dans ces entités. Pour elles, en attendant des avancées concrètes, la population continue de payer les plus forts. La guerre menée par l'AFC M23 depuis plus de 4 ans a provoqué des dégâts majeurs. Infrastructures détruites, millions de déplacés et des communautés entières déracinées Calais dans les provinces du Nord et Sud Kivu.
Dans le même ordre d'idées, la cité de Luvungi, située dans la plaine de la Ruzizi, s'est vidée de ses habitants depuis ce vendredi matin. Selon des sources locales, près de 80% de la population se dirige vers Sangé et Uvira, plus au sud, avec l'intention de franchir la frontière pour rejoindre le Burundi. Ce déplacement massif est motivé par les tirs d'obus en provenance de Kamanyola et Katogota qui s'abattent sur Luvungi. Trois personnes ont été blessées, un vieillard, un enfant et une femme. La frontière burundaise de Rubenga, proche de Luvungi, a déjà été fermée, confirment les notables du milieu. Pendant ces temps, les combats font rage à Kamanyola et Katogota où les belligérants s'affrontent violemment. La FCM23 renforce ses positions dans la partie nord, tandis que les FARDC consolident les leurs au sud. L'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington le 4 décembre suscite de réactions contrastées dans la province du Sud Kivu. Certains restent sceptiques face au bruit de bottes qui persiste dans la région où les troupes belligérantes continuent de renforcer leur position en hommes et en munitions malgré l'accord. D'autres en revanche espèrent que ce texte marque les débuts d'un véritable processus de paix dans la région de Grand Lac. Écoutons ces vox pop recueillis dans la ville de Bukavu et dans les territoires de Walungu, Vira, Kabare, Kale et Chabunda par Jean Kassami.
En tout cas, c'est une distraction. On dit accord de paix, mais chez moi, quasiment maintenant, là, il est 9h25 dans le groupement de Bulumbwa, Kahungwe. Ce sont des lourdes détonations qui se font entendre ici et là. C'est une distraction notoire qui n'a rien pour la restauration de la paix à l'est de la RDC. Nous venions de perdre des dizaines de nos compatriotes paisibles citoyens qui venaient d'être massacrés.
Nous attendons maintenant ce qui va se passer en République démocratique du Congo parce que nous, la population, nous sommes là comme observateurs et voir si réellement tout ce qui a été signé entre les deux présidents a été respecté.
Historiquement, beaucoup d'accords internationaux ont été symboliques avant d'être suivis d'actions concrètes.
Nous saluons cet accord, nous voulons que ça soit seulement réaliste. Ce qui nous fait inquiéter et que nous nous demandons est qu'ils n'ont pas prévu les sanctions par rapport à celui qui va aller à l'encontre de cet accord-là.
C'est vraiment un trompe-l'œil, c'est du folklore d'ailleurs. Sinon, si on se réfère rien qu'aux accords précédents qui ont été signés entre le Rwanda et la RDC, il y a lieu de dire que c'est du n'importe quoi. Ce sont des pièges qui ont été signés expressément.
Un gouffre de soulagement pour toute la population congolaise et celle de Chabunda. Néanmoins, nous devons observer cet accord se mettre en pratique sur le terrain.
Le Rwanda doit lever l'hypocrisie. Le président de la République démocratique du Congo lui a montré au monde entier qu'il veut la paix, rien que la paix.
Autre réaction importante, la MONUSCO salue l'entérinement de l'accord entre la RDC et le Rwanda. La mission des Nations Unies rend hommage aux deux chefs d'État pour leur détermination politique en faveur de la paix et de la coopération régionale. Selon la MONUSCO, cet accord combiné à celui signé à Doha entre la RDC et le M23 ainsi qu'à la résolution 2773 constitue une opportunité pour passer des conflits aux solutions politiques. La mission estime que la mise en œuvre de ce texte, dont le respect de l'intégrité territoriale de chaque pays et grâce à un dialogue interne continu permettra de consolider la paix au bénéfice des populations. Écoutons la porte-parole de la MONUSCO, Kadi Lo, dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Masimango.
La MONUSCO considère que les accords conclus ouvrent une nouvelle fenêtre d'opportunité pour rétablir la confiance entre les deux pays pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et contribuer à libérer le potentiel économique de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ces accords, conjugués à l'accord cadre signé entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 et à la résolution 2713 du Conseil de sécurité, offrent une opportunité pour passer de la confrontation à des solutions politiques. Leur mise en œuvre de bonne foi et dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région sera essentiel pour parvenir à une paix durable. La MONUSCO souligne que ces efforts doivent favoriser la stabilité tout en garantissant la protection des civils et le respect des droits de l'homme. Un dialogue continu, des mesures de décrispation et des approches inclusives au niveau national et local seront déterminants pour instaurer la confiance, réduire les tensions et consolider la paix au bénéfice de toutes les communautés affectées par le conflit.
À Bounia, des coups de feu ont retenti dans la nuit de mercredi à jeudi au quartier Bigo et dans la bourgade de Koromojo située dans la commune de Chari. Selon la police, des hommes armés non identifiés ont dérobé la moto d'un taximen. Au cours de la même nuit, plusieurs maisons ont été cambriolées, dont celle d'un officier de la police nationale congolaise absent au moment de fait. Le commandant ville de la PNC, le colonel Abeli Mwanga, précise que l'intervention rapide des patrouilleurs qui ont riposté par des tirs a permis de limiter les dégâts. Il appelle la population à redoubler de vigilance en cette période de fin d'année et à alerter rapidement les services de sécurité. Écoutons le colonel Abeli Mwanga au micro de Martial Kizabiamungu.
Il est à signaler que pendant leur fuite, les bandits ont abandonné une batterie, une manchette et une barre de mine. À noter que la situation sécuritaire dans les quartiers Bigo en particulier et celle de la commune de Chari en général nécessite une attention particulière des autorités. Surtout avec la présence de deux sites de déplacés, de l'ISP et celle de Kigonzi, hébergeant plusieurs chômeurs et quelques fumeurs de chanvre. Voilà pourquoi le commissariat urbain Bounia demande à toute la population d'être vigilante, de collaborer avec les autorités, de collaborer avec les services de sécurité, de dénoncer les inciviques et ennemis de la paix et de se désolidariser de quelques groupes armés réfractaires au processus de démobilisation.
Santé publique dans la province du Maniema. L'hôpital général de Samba, situé dans le territoire de Kasongo, traverse une situation critique. L'établissement souffre d'un grave déficit en infrastructures et en services essentiels. En plus du manque de lits et des bâtiments adaptés, il ne dispose pas de plusieurs unités vitales, notamment la réanimation et l'imagerie médicale, ce qui limite sa capacité à offrir de soins complets à la population. Le médecin directeur Dr Cédric Mbayous tire la sonnette d'alarme et lance un appel à l'aide pour remédier à cette situation. Il a été joint par Kawaya Masimango Kama.
Nous à Samba, nous avons 46 lits pour l'hospitalisation de nos malades. Parfois, vous pouvez avoir 30 ou 40 malades hospitalisés. Il y a les malades qui prennent même leur matelas à la maison et viennent avec ça à l'hôpital. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a un besoin et des lits et des matelas dans notre hôpital. Nos bâtiments que nous avons, ce sont des petits bâtiments. Aucun bâtiment du gouvernement. Si nous regardons aussi les services que compte un hôpital général, ici chez nous, il y a manque peut-être de 3 ou 4 services. Il n'y a pas les services d'imagerie, il n'y a pas les services de réanimation, il n'y a pas les services des réadaptations. Même les services que nous avons aujourd'hui, ce sont des services vraiment leur capacité réduite.
Pour clore ce chapitre à Goma, la vie de nombreuses personnes vivant avec le VIH est menacée par une rupture critique des stocks de médicaments essentiels à leur traitement. L'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH ICOP Plus tire la sonnette d'alarme. Cette pénurie compromet la continuité de soins, augmentant non seulement le risque de mortalité, mais aussi celui de transmission du virus au sein des communautés. Rosalie Zawadi. On fait le point.
La situation est particulièrement critique pour les personnes qui souffrent de la double infection, la tuberculose et les VIH. Ce sont elles, ces personnes adultes co-infectées, qui sont aujourd'hui les plus exposées. Jimmy Basila, responsable du suivi à l'UCOP Plus, ne cache pas son inquiétude. Pour lui, sans intervention rapide, la pénurie des médicaments risque de leur être fatale.
Il y a des ruptures des médicaments tels que les antituberculés pour les co-infectés. C'est une PV VIH qui a à la fois la tuberculose et le virus du VIH. On risque d'enterrer beaucoup. Il y a aussi le manque de tests. Beaucoup de gens veulent faire le dépistage volontaire, mais il n'y a pas de tests à l'hôpital. Il y a aussi les ARV pédiatriques.
Face à cette urgence, l'UCOP Plus demande aux acteurs intervenant dans ces secteurs de rendre les médicaments disponibles pour sauver les vies de ces personnes. Pour sa part, l'ONU-SIDA rappelle que dans les contextes actuels des crises des financements, les pays devraient s'impliquer davantage dans la lutte contre le VIH pour espérer mettre fin à l'épidémie du SIDA d'ici 2030. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
À Kananga, la voie ferrée est menacée par un gigantesque ravin situé dans la commune de Lukonga, quartier Mabondo, localité Basongila. Le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga avait entamé des travaux pour contenir ce ravin, mais ceux-ci sont aujourd'hui à l'arrêt, laissant le phénomène progresser chaque jour. Les habitants riverains appellent les autorités politico-administratives à une intervention urgente pour éviter une catastrophe. Détail dans ce reportage signé André Katende Ngalamulume.
C'est depuis maintenant 6 mois que les travaux sur ces ravins sont aux arrêts. Luteke Kabongo, habitant du quartier Mabondo qui nous livre l'information, indique qu'à chaque tombée de pluie, les ravins s'agrandit. Il est déjà à 2 mètres de la voie ferrée et risque de couper le chemin de fer ainsi que la nationale numéro 41 à 6 niveaux. Les ménages qui vivent à côté du ravin sont aussi en danger. Martine Tchiela, mère de 8 enfants, souligne qu'avec les pluies abondantes sur la ville, sa maison risque de tomber dans ces ravins. Elle en appelle à une intervention urgente des autorités.
À chaque tombée de pluie, les ravins s'agrandissent, surtout du côté où nous sommes. Un jour, la maison peut tomber dans les ravins et nous apporter les malheurs. Nous invitons les autorités à remblayer les ravins pour nous épargner du danger.
Du côté Purique, Solange Mwindia Aminata, spécialiste en communication, fait savoir que les travaux qui étaient amorcés sur ces ravins étaient conservatoires. Elle rassure de la reprise imminente des travaux de lutte anti-érosive par l'entreprise chinoise Chanafest qui est en train d'installer sa base vue. Kananga, André Katendengalamulme, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé ce vendredi une vive inquiétude face à l'intensification de la répression en Tanzanie depuis les élections générales de fin octobre. Selon Sef Mangango, porte-parole du Haut Commissariat, des informations crédibles font état d'arrestations massives visant des universitaires, des membres de la société civile et des responsables politiques locaux. Depuis la mi-novembre, des dizaines de personnes ont été interpellées, certaines par des de vue d'une armée non identifiée, a-t-il déclaré lors d'un point de presse à Genève. Ces développements surviennent dans un contexte de tensions accrues après le scrutin législatif et présidentiel du 29 octobre jugé frauduleux par plusieurs observateurs internationaux. L'opposition et des organisations de défense des droits humains dénoncent une dérive autoritaire et des violences systématiques. Selon leur estimation, plus de 1000 personnes auraient perdu la vie dans les jours qui ont suivi les élections, victimes d'affrontements et de répressions menées par les forces de sécurité contre des manifestants hostiles au pouvoir. L'ONU appelle les autorités tanzaniennes à respecter les droits fondamentaux, à garantir la liberté d'expression et à mettre fin aux arrestations arbitraires.
L'invité.
Le 30 novembre dernier, ils étaient 11 313 candidats, dont 2 715 femmes, à composer l'épreuve écrite pour intégrer la 10e promotion de l'École nationale de l'administration, ENA, à travers le pays. Invité de Radio Capi, le directeur général de cet établissement public, Tombola Mouquet, précise que ces recrutements visent à rajeunir la fonction publique en misant sur la méritocratie. Il exprime sa gratitude au gouvernement pour la mobilisation des fonds, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cet examen national. Tombola Mouquet répond aux questions de Blaise Ndonga Lamayanda. Suivez.
Bonjour, monsieur le directeur général.
Bonjour, cher Blaise.
Quelles sont vos impressions en ces jours où l'École nationale d'administration vient de lancer l'épreuve écrite du concours de recrutement de sa 10e promotion?
Je pense qu'il faut saluer l'effort qui a été fourni dans le cadre de l'organisation de cette épreuve écrite. C'est une logistique impressionnante. L'épreuve organisée au même moment à Kinshasa et dans tous les chefs-lieux de province, donc 25 chefs-lieux. Derrière, il y a des moyens financiers, derrière, il y a une volonté politique. Donc je voudrais commencer par souligner la volonté politique qui a présidé à l'effectivité du lancement de l'épreuve écrite du concours de recrutement de la 10e promotion de l'ENA. RDC, en particulier la volonté de la plus haute autorité, son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ensuite du gouvernement à travers son excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique. faut saluer l'effort parce que, en dépit du contexte institutionnel qui est difficile, du contexte des finances publiques qui est difficile aussi, mais le gouvernement a tenu bon. Après un report, parce que initialement le preuve écrite devait être organisé en septembre, mais finalement, tout a été mis en œuvre en termes de moyens financiers, de moyens logistiques, des moyens humains pour que cette épreuve écrite s'organise aujourd'hui. Et donc,
combien de candidats au total prennent part à cet examen?
11 313 exactement sur l'ensemble du territoire national. On avait reçu 22 426 candidatures au total après traitement, donc après avoir appliqué les critères qui étaient communiqués aux candidats. 11 313 ont été retenus, dont 24% des femmes, dont une grande majorité à Kinshasa. C'est quand même 7274 candidats qui sont répartis sur deux sites, comme vous l'avez vu ici à l'UPC. Ils sont dans 25 salles. Puis à la Haute École de Commerce, ex-IEC, où nous avons 35 salles. Donc au total, 60 salles seulement pour la ville de Kinshasa. Puis les autres sont répartis sur l'ensemble du territoire national.
À quand la prochaine étape, l'étape de l'examen oral?
En tout cas, tout est mis en œuvre pour que le processus se termine en fin janvier, de sorte que la nouvelle promotion commence la scolarité en février. Et on va s'y tenir. Après le prév écrit, c'est le prév oral. Évidemment, il y a une période de correction. La correction pendra quelques semaines. Les candidats qui seront retenus à l'issue de cette étape seront convoqués pour les prévues orales, il y aura un jury oral et après il y aura une cérémonie d'entrée, une cérémonie couplée, sortie de la 9e promotion qui a terminé, puis entrée de la 10e qui habituellement est présidée par la plus haute autorité du pays, viendra la scolarité, début de la scolarité.
Comment réagissez-vous par rapport à certains experts qui estiment qu'il faut revoir à la hausse les nombres des candidats à retenir pour une année? Aléna.
Je pense que cela dépend du patron de ressources humaines, son excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, on va dire du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit exprimer les besoins, qui définit le nombre de places, et puis en fonction de ce nombre de places, nous on organise le recrutement. Ça c'est d'une part. D'autre part, il y a nous aussi comme ENA qui devons nous mettre à l'échelle en termes de capacité d'accueil. Ces deux conditions mises ensemble devraient permettre prochainement d'accueillir un peu plus que 100 si tels étaient les besoins du gouvernement.
Avez-vous un petit message à lancer d'abord aux candidats, à tous ceux qui prennent part à cette épreuve?
Bon, alors le personnel d'appoint, le personnel qui est en charge de la supervision, de la coordination, a bas un travail difficile. Il faut saluer le travail qu'ils font. Donc je voudrais ici leur exprimer mes mots de félicitations parce que visiblement, comme vous l'avez constaté, l'épreuve écrite s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. Vous avez pu l'observer. Les carnets d'examen portaient déjà le nom des candidats. Ça, c'est aussi grâce à l'application mobile qu'on a lancée récemment, MyENA, qui a permis de dématérialiser le processus. C'est un processus très transparent. Je pense que l'autorité l'a expliqué ici. Le processus de correction est transparent, objectif, rigoureux, en double aveugle.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
Merci.
Merci à Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration, pour ses éclairages sur le recrutement de la 10e promotion. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition pour un nouveau point sur l'actualité.